Dans le Devar Malchut, sur la paracha Vaïgash, le rabbi va nous rappeler un passage de la Megillah d'Esther. Il est écrit qu'Achashverosh, il a voulu faire la volonté d'Aman et il a voulu faire en même temps la volonté de Mordechai. Alors, comme on sait que, d'après la partie profonde de la Torah, Achashverosh, ça représente les saints bénis soit-il. Et donc, comment c'est possible que le Hachem, il puisse réaliser deux volontés qui s'opposent totalement, puisqu'on voit que la volonté d'Aman, elle est vraiment liée à l'exil, c'est vraiment, ça va contre la sainteté, c'est l'autre côté de la sainteté, et la volonté de Mordechai, ça représente le côté de la sainteté, ça représente la volonté d'Hachem, la volonté vraiment d'accomplir la volonté de Dieu dans ce monde, de faire de ce monde une demeure pour l'essence divine. La question qui est posée ici par le rabbi, elle est très profonde, puisque il n'y a aucune question sur le fait qu'un juif, il doit accomplir la volonté de Dieu qui est exprimée dans la halakha. C'est-à-dire que, d'un côté, c'est certain qu'un juif, il doit obéir aux lois d'un pays, le pays dans lequel il vit. Mais évidemment, ce n'est que dans le cas que ces lois ne contredisent pas la volonté de Dieu qui est exprimée dans la Torah. Ça, c'est évident. La question qui est posée ici, c'est au sujet des usages d'un pays. C'est-à-dire, le domaine à Réchout, c'est-à-dire ce qui est permis par la Torah. Quelle attitude un juif doit avoir vis-à-vis de ses usages, de ses normes? Alors l'exemple qui est donné, c'est celui de Yehuda, qui, lorsqu'il s'est approché de Yosef, on voit que l'usage, c'est de demander l'autorisation avant de parler. Et le rabbi souligne ici que Yehuda, il est venu avec une grande force et il s'est vraiment imposé vis-à-vis de Yosef. Et il a parlé sans même demander l'autorisation. Ah donc, on voit qu'il s'élève, il est au-delà, il se situe au-delà des limites, au-delà des usages, des normes de ce monde. C'est ça le point qui nous intéresse ici. Comment un juif doit faire face à l'exil? Dans le Devar Malchut, le rabbi va développer cette idée. Donc, il va expliquer que Aman, il représente l'obscurité, il représente les limites de ce monde, les limites que nous impose ce monde matériel. Les usages, comme on l'a dit, des usages auxquels on doit faire face. Alors, de quelle manière on peut faire face à ces usages? De quelle manière on peut s'élever au-delà des normes et d'agir à l'exemple vraiment de Yehuda et de Mordechai à Yehudi, Mordechai qui lui-même aussi, c'était, on dit de lui qu'il ne s'agenouillait pas et il ne se prosternait pas devant Aman. Donc, cette attitude, c'est un refus de l'exil, c'est vraiment s'élever au-delà de l'exil. Alors, comment est-il possible de s'élever au-delà de l'exil? C'est précisément quand on va dévoiler le lien de notre âme avec Dieu. Puisque, comme on le dit souvent dans le Devar Malchut, on explique souvent, on essaie d'expliquer ce que c'est l'essence de l'âme juive. L'essence de l'âme juive, elle est au-delà de toutes les limites. Elle est au-delà des limites de ce monde. C'est-à-dire que c'est la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps, donc qui est vraiment au-delà de toutes les limites. Et cette partie de l'âme, on a, chaque juif, il détient la capacité de dévoiler ce niveau-là. Alors à partir du moment où il dévoile ce niveau-là, et le rabbi, il l'exprime en disant que le lien de Mordechai ou le lien de Yehuda avec Dieu, il est tellement puissant que Dieu, il va l'élever au-delà des sujets de ce monde. C'est-à-dire qu'il va l'élever au-delà du monde. Cette idée-là, on l'a déjà vue dans un Devar Malchut quand on a expliqué que quand Dieu, il a créé le monde, il a demandé à l'âme des tzadikim si oui ou non il fallait créer le monde. Et on a vu donc que le fait qu'il demande aux âmes juives s'il faut créer le monde ou pas, ça signifie que l'âme juive, elle est au-delà de ce monde. Elle est au-delà de ce monde matériel. Elle précède même le monde. On a expliqué aussi que Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que les trois liens qui existent entre Dieu, la Torah et le peuple juif, c'est que évidemment un juif, il se lie à Dieu par le fait que lui-même, il va se lier à la Torah, mais il existe un lien qui est supérieur même au lien de la Torah avec Dieu et au lien de qui unit Israël avec la Torah, c'est le lien qui unit chaque juif à Dieu. Ce lien-là, il est au-delà du monde. Donc à partir du moment où on va dévoiler ce lien, on va dévoiler un niveau qui est au-delà de tous les sujets du monde. Et ça va situer, ça va ramener ce juif à un niveau où il va non plus être, il va pas être touché par l'exil, par l'obscurité. Et il va agir de telle manière qu'il va éclairer justement ce monde limité, et d'une manière exceptionnelle. Pourquoi exceptionnel? Parce qu'on voit que même Mordechai, il a réussi par cette attitude à annuler le décret d'Aman. Donc on voit que quand un juif, il agit véritablement comme un juif, c'est-à-dire quand il agit en dévoilant le lien qui unit son âme à Dieu, alors il parvient même à influer sur le roi lui-même. Il parvient à faire que le roi lui-même va l'aider dans sa démarche de provoquer la délivrance finale. C'est pour ça que le rabbi, il insiste dans ce Dvar Malchut pour dire que vraiment, on assiste aujourd'hui au fait que les peuples du monde, ils aident le peuple juif vraiment à accomplir la volonté de Dieu. On pourrait donner l'exemple, par exemple, de l'Akba Omer, la parade de l'Akba Omer, quand on voit toute la police new-yorkaise qui va aider et qui va assurer la sécurité du défilé. Donc on voit que on n'a plus d'opposition pour nous exprimer véritablement, exprimer ce lien profond, le lien essentiel de notre âme, Kesher Atzmi, vraiment l'essence de notre âme. C'est même les peuples du monde, ils sont prêts vraiment, et ils demandent qu'un juif il agisse de cette manière, parce qu'ils réclament aussi leur élévation. Ces idées-là, on les retrouve dans le Torah Or, de la Parasha Vaigash, de l'Admor HaZaken. Pourquoi? Parce que l'Admor HaZaken, il va expliquer la différence qui existe entre la réalité, donc la réalité, la création du monde, elle dépend du Seder Ishtalshelut, de l'enchaînement des mondes, donc il y a vraiment un passage de la lumière infinie de Dieu jusqu'à notre monde matériel. Et notre monde, il reçoit qu'un reflet de cette essence. Donc, d'après l'enchaînement des mondes, on voit même que la Lune, par exemple, quand on la regarde dans le ciel, comme on l'a expliqué dans le Dvar Malchut des semaines précédentes, on a expliqué qu'on voit que la lumière de la Lune, sa lumière, elle diminue dans le ciel. Pourquoi? Parce que c'est justement la réalité telle qu'elle s'exprime par le biais de l'enchaînement des mondes. Donc, cette lumière de la Lune qui diminue dans le ciel, elle exprime aussi l'exil, puisque on voit vraiment il y a une différence entre la lumière et l'obscurité. Alors que dans les temps futurs, on va voir que la lune elle-même, ça va devenir un luminaire. Il y aura plus la face cachée de la lune, ça n'existera pas parce que la lune elle va alors posséder sa propre lumière, et elle va éclairer constamment. C'est ce qui est écrit quand on dit que la nuit brillera comme le jour. Pourquoi? Parce que justement la lune elle brillera sans cesse. Il y aura plus de face cachée de la lune. Donc ce qui apparaîtra à nos yeux au moment de la délivrance finale, ce n'est pas le dévoilement de la lumière divine telle qu'elle apparaît selon l'enchaînement des mondes. C'est un dévoilement qui est beaucoup plus élevé puisque c'est le dévoilement de l'essence divine à ce moment-là. Donc l'Admor HaZaken, il exprime ces idées-là dans le discours de Torah Or sur la Parasha Vaigash, et il donne l'exemple, par exemple, du Mishkan et du Beit HaMikdash. Il explique que le Mishkan lui-même, on voit que la partie la plus basse du Mishkan, c'est de la terre, puis on vient poser des poutres en bois, des pilotis qui vont soutenir ensuite un toit qui est fait de tentures, de peaux d'animaux. Donc l'élément le plus bas, ça correspond à l'inanimé, la terre, puis l'élément intermédiaire, c'est le végétal, les poutres de bois, l'élément supérieur, ce sont les peaux de l'animal. Et ça concorde avec l'enchaînement des mondes, puisque dans l'enchaînement des mondes, on voit qu'il y a quatre règnes. Le plus bas, ça représente l'inanimé, la terre. Au-dessus, c'est le végétal, donc les poutres du Mishkan. Encore au-dessus, c'est l'animal, donc c'est le toit du Mishkan. Et encore au-dessus, c'est l'homme lui-même. C'est le plus haut niveau parmi tous les règnes de la création. Mais dans les temps futurs, c'est le Seder Ishtalshelut, l'enchaînement du monde, il va plus être le même, puisqu'on dit, comme c'est écrit, que la Séphira de Malchut va s'élever au-delà de toutes les séphirotes, comme on l'a dit au sujet de la Lune. La Lune, elle représente la Séphira de Malchut, c'est-à-dire qu'elle reçoit sa lumière du Soleil, donc de ce qui est supérieur à elle, ça c'est selon l'enchaînement des mondes. On voit que la Séphira de Malchut, elle reçoit sa lumière de toutes les séphirotes qui la précèdent, dans l'enchaînement des mondes. Mais dans les temps futurs, comme c'est écrit, l'épouse vertueuse devient la couronne de son mari. L'épouse vertueuse, c'est la lune aussi. Ça représente ce niveau, le niveau le plus bas. Lui-même, ce niveau-là, il va s'élever à un niveau supérieur. Ça va devenir un luminaire, comme on l'a dit. Donc une couronne, la couronne de son mari. Donc ce qui est vrai pour les séphirotes, C'est aussi vrai dans ce monde matériel, puisque dans le Beth Amikdash lui-même, on voit que la partie la plus basse du Mishkan, on a dit c'est la terre, c'est ce qui est inanimé, et quand le Beth Amikdash va descendre du ciel, à ce moment-là, le toit du Beth Amikdash, il sera en pierre. Donc la pierre elle-même qui représente le niveau de l'inanimé, ça deviendra la partie supérieure du temple. Donc Eshet Ra'il, Ateret Bala, une épouse vertueuse devient la couronne de son mari, c'est-à-dire que le niveau le plus bas, qui est la terre, va devenir le niveau le plus élevé. C'est ce qu'on apprend aussi quand on étudie le Dvar Malchut, et ça, le rabbi revient souvent là-dessus. Quand il dit qu'aujourd'hui, le corps, vraiment le corps, il est matériel, il reçoit toute sa vitalité de l'âme, l'âme qui est spirituelle, mais dans les temps futurs, donc ce corps, il va s'élever, comme la lune va s'élever, va devenir un luminaire, le corps lui-même va devenir un luminaire, puisque l'âme sera nourrie par le corps. Eshet Ra'il, Ateret Ba'ala. Encore une fois, on voit ici que le niveau le plus élevé, c'est celui de la terre, c'est le niveau de l'inanimé. Et c'est pour ça que l'Admor HaZaken, il explique que la terre, elle représente vraiment la soumission la plus totale. C'est ça le lien qu'on peut faire ici avec Yehuda, dans notre Parasha Vaigash, parce que Yehuda aussi, il représente la terre. Parce que la terre, ça représente le bitoul, la soumission la plus totale. Comme c'est écrit, là, on marche sur la terre, on la piétine, et elle ne se plaint pas, elle ne répond pas. Et pourtant, dans les temps futurs, il est dit que le mur lui-même, la poutre du bois, la poutre qui est dans le mur, eux-mêmes vont parler. Même la terre va parler elle-même. Elle va dire, comment toi, tu oses marcher sur moi, alors que, et sans dire des paroles de Torah. Donc on voit que le niveau qui est inanimé, qui représente la soumission la plus totale, ce niveau-là, dans les temps futurs, il va apparaître vraiment à nos yeux. C'est pour ça que l'Admor HaZaken commence son discours en expliquant la marloquette qui existe entre les sages sur la terre et le ciel. Qu'est-ce qui a précédé dans la création? Est-ce que la terre a été créée avant le ciel ou le ciel a été créé avant la terre? Alors les avis sont partagés. Certains disent que c'est la terre qui a été créée avant le ciel, d'autres disent que le ciel a été créé avant la terre. Et l'Admor HaZaken vient répondre qu'en réalité, ils ont tous raison, parce que effectivement, de manière concrète, c'est le ciel qui a été créé avant la terre. Mais dans la pensée de Dieu, la terre, elle est apparue en premier dans la pensée de Dieu. C'est pour ça que la terre, elle représente vraiment la soumission. Elle est liée à Dieu d'un lien très étroit, d'un lien très intime, puisqu'elle précède même le ciel dans sa pensée. C'est-à-dire qu'elle représente le but de la création. Dieu, il a créé de manière effective le ciel avant la terre, mais d'une certaine manière, il a préparé, en faisant apparaître le ciel en premier, son objectif final, c'est celui de la terre. C'est pour ça qu'il est dit que la fin de l'action apparaît au début dans la pensée. C'est-à-dire que ce qui vient au début dans la pensée, ça apparaît en dernier. Et c'est le cas donc de la terre. Donc Yehuda, il représente ce niveau-là, il représente le bitoul. Le Baal Shem Tov, il nous a appris, il a dit que chaque juif aussi est comparé à la terre. Eretz Refetz. La terre, c'est aussi les mots Eretz, c'est les mots de Ratzon. La terre, elle veut accomplir la volonté de Dieu. Parce que la terre, elle est soumise à Dieu. De la même façon, on voit que la Sephira de Malchut, elle représente la soumission. La soumission, c'est quoi? La Malchut, c'est la parole de Dieu. Dieu, il crée le monde au moyen de sa parole. Et les lettres de la parole aussi, les lettres sont des choses qui sont inanimées. Donc ça représente encore une fois le bitoul, l'élément le plus bas dans l'ordre du Seder Ishtalshelut, dans la réalité telle qu'elle nous apparaît, les mots eux-mêmes, la Sephira de Malchut, ils représentent ce bitoul-là. Donc cette annulation totale par rapport à Dieu. Et c'est précisément cette qualité-là, la qualité donc de Yehuda, c'est par sa soumission vis-à-vis de Dieu, c'est par le lien qu'il a, ce lien qui est très fort avec Dieu, qu'il va s'élever, que Dieu va l'élever au-delà de toutes les limites. Ça nous rappelle cette histoire-là, de l'histoire de quand Chassid, il a demandé au Magid de Mezrich, il a demandé, il voulait, comment on fait pour avoir la Torah? Alors le Magid lui a dit, si tu veux la Torah, il faut aller vers le sud, parce que le sud, c'est la partie, dans le Beth Amikdash, c'est la partie où se trouve la Menorah. Et si je veux la richesse matérielle, alors tu dois aller vers le nord, parce que le nord, c'est l'endroit où il y a la table de proposition des pains. Donc c'est vers là que tu dois aller. Et il a demandé ensuite, et si je veux les deux? Alors le Magid lui a répondu, alors il faut que tu ailles à l'endroit où se trouve l'arche, parce que l'arche, elle ne tient pas de place dans le Beth Amikdash. Elle est au-delà des limites de ce monde. Elle se situe, elle ne prend pas de place, ça veut dire vraiment qu'elle est totalement annulée à Hachem. Et donc c'est quand on parvient à ce niveau-là où on est totalement annulé à Dieu, alors Dieu nous élève au-delà de toutes les limites. C'est ce qui donne l'assurance, l'audace à Yehuda de s'adresser à Yosef en étant vraiment avec ce ometz, avec cette puissance, avec ce désir vraiment de provoquer la délivrance et de ne pas se laisser impressionner. Comme on l'a dit, quand Dieu il demande aux enfants d'Israël s'il faut oui ou non, tzadikim en particulier, s'il faut oui ou non créer le monde, on voit que l'âme d'un tzadik se situe au-delà de ce monde. Ça veut dire qu'elle est nullement impressionnée par ce monde. Et quand on voit Yehuda qui va s'adresser à Yosef, on voit qu'il agit sous l'influence de cette force-là, avec l'essence de son âme. Et c'est ce qui va permettre ensuite la délivrance, comme on le voit à la fin de la paracha, où on voit que Jacob il va s'installer en Égypte, dans la meilleure partie de l'Égypte, et qui va y vivre les meilleures années de sa vie. Donc on voit la capacité d'un juif, quand il dévoile l'essence de son âme, à transformer l'obscurité de l'exil en lumière, en délivrance. Le nom lui-même de Yehuda. Yehuda, c'est Yehudi, puis c'est aussi la chaune Odaa, de reconnaître. Ça rappelle la prière de Modéani. Modéani, c'est vraiment aussi le bitoul. Le rabbi souligne toujours cet enseignement-là pour nous dire qu'on dit d'abord Modé, d'abord on reconnaît Dieu, et ensuite Ani. Ensuite vient notre propre existence. C'est vraiment ce que ça rappelle, cette bracha que le rabbi il a fait à ses shurim quand il leur a dit que votre volonté se fonde en la sienne, que votre volonté se fonde en la volonté de Dieu. C'est vraiment cette idée-là de soumission. Parce que la soumission, ça implique la fusion, c'est le fait vraiment de se retrouver face à Dieu et de fusionner avec lui, avec sa volonté. C'est pour ça que même quand le rabbi nous explique dans le Dvar Malchut, à un autre endroit, il nous dit que plus la lune se rapproche du soleil, plus sa lumière diminue dans le ciel, jusqu'à devenir totalement absente. Alors il dit que c'est justement ce dernier jour, comme c'était le cas, le 30 qui se lève, quand la lumière de la lune, elle était... On voyait plus du tout la lune, on voyait que de l'obscurité. En fait, ça désigne ce moment-là où la lune, elle est face au soleil, c'est-à-dire qu'elle reçoit vraiment toute sa lumière. Et de la même façon, on doit comprendre qu'un chassid, plus il se rapproche du rabbi, plus sa lumière, elle va disparaître. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, le rabbi va dévoiler son essence. Et quand l'essence, elle se dévoile en ce juif, alors la lumière qui n'est qu'un reflet de l'essence, elle disparaît totalement. Ce n'est que quand il va s'éloigner du rabbi qu'il va commencer à éclairer son entourage, éclairer sa famille, éclairer la rue, éclairer la ville. Il va éclairer de quoi ? De cette lumière qu'il a reçue du rabbi, cette lumière qui représente vraiment, qui est le fruit de sa soumission. C'est-à-dire que plus un chassid, il va être soumis vraiment au rabbi, et il va s'attacher à ses enseignements, il va s'attacher à ses ma'amarim, il va s'attacher à exprimer tout ce qu'il apprend dans son étude, dans ses actes, quand ses actes ils vont briller de l'étude qu'il a faite, à ce moment-là, il va éclairer le monde, non seulement de la lumière du rabbi, mais de l'essence même du rabbi qui va éclairer à ce moment-là. D'où l'importance de la soumission, d'où l'importance, c'est ce qu'on voit chez Mordechai à Yehudi, qui ne se prosterne pas, et qui ça rappelle cette déclaration du Zohar, quand il est dit que celui qui est esclave de Dieu, il est maître de toute la terre. La terre, ça désigne non seulement ce monde physique, mais ça désigne aussi son âme animale. Le fait de transformer, comme la Mourazaken nous l'apprend dans le Tanya, de transformer l'obscurité en lumière, et vraiment de faire de ce monde une demeure pour l'essence divine, avec l'aide de Dieu, et le dévoilement du Machiar dès à présent. Shabbat Shalom, Oumevoar.